vie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Place des Abbesses, une fontaine Wallace, un manège, une bouche de métro, l'une des rares de Paris à être encore surmontée d'un édicule d'Hector Guimard. L'église Saint-Jean, que les Montmartrois appellent Saint-Jean-des-Briques, et à un pas de là, le square Jean-Rictus, sur l'emplacement de l'ancienne mairie où se maria Verlaine, la mairie de Clémenceau, celle de Jean-Baptiste Clément, au temps de la Commune. Quand, en 1980, les Nuits Magnétiques transportaient leur micro à Montmartre, place des Abbesses, le square avait encore, ou déjà, ses chats, cousins de celui de Bruant, mais pas encore son mur des « Je t'aime » de Baron et Quito. Depuis longtemps, le lion de bronze avait déserté les lieux et, depuis plus longtemps encore, avait été détruite l'abbaye des Bénédictines qui donna son nom à la place jusqu'en 1867. Mais, alors que commençaient les 80s, la place des Abbesses, comme elle l'est encore aujourd'hui, était pareille, ou presque, à celle que peignait Utrillo au début du siècle dernier. Dans les Nuits Magnétiques, en 1980, voyage à Montmartre, place des Abbesses.
Nuit magnétique, bonsoir. Voilà la place des Abbesses, une émission de Nicole Lise Bernheim, réalisation Odile de Pontual.
Se connaît, ça papote, ça rit chez les uns, chez les autres, c'est pas prêt de s'éteindre, tout ça.
Ça a perdu son petit côté village.
C'est l'un des quartiers les plus sympathiques de Paris, parce que c'est un peu encore un village.
Mais maintenant, il y a un petit côté coupe-gorge. Voilà. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont. Coupe-gorge.
C'est prévu dans le cadre de la rénovation de la place des Abbesses.
Il y a le 80, le 67, il y a le métro.
Je suis là depuis 12 ans. Alors, je me suis habituée au quartier et puis... C'est un quartier qui est un peu différent des autres, alors on s'y attache.
La rue de la Beauvoir, la rue Cortot, naturellement bien sûr la rue Saint-Vincent qui a été chantée, tous ces coins. Oui, enfin quoi, évidemment, on a tendance à rabâcher tout ça.
Je vais dire quelque chose et je vais paraître horriblement raciste. Mais on commence à être vraiment envahi par Barbès et c'est pas très 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 drôle.
La place des abbesses. De ma fenêtre, là, maintenant, je la vois. Quand je travaille, je la regarde. Quand j'écoute de la musique, je la regarde. Ces oiseaux me réveillent. En ce moment, j'attends avec impatience la floraison du vernis du Japon, dont l'odeur, au printemps dernier, m'a enchantée. En hiver, je la vois très bien à la place et son métro. Les gens avalés par le gouffre inépuisable, tôt le matin et tard le soir. Les oiseaux, toute la journée. Tard le soir. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. Le vernis du Japon remue un peu, tranquille. L'hiver, la place est calme, presque vide. Les clochards sont affalés dans l'escalier du métro et interpellent les passants. T'as pas 100 balles ? L'été, le soleil, toujours les oiseaux. Dans le lierre épais des nids, des moineaux. Peu à peu, avec les feuilles revenues, la place disparaît de ma vue. Je reste face aux arbres du square et aux maisons de la place, plein sud. Les habitants là-haut prennent des bains de soleil, je les vois. Le matin. Un vieux monsieur fait les 100 pas sur la terrasse. Droite, gauche, et gauche, droite, sans trêve. Est-il fou ? Pourquoi ne descend-il pas ? Gauche, droite, droite, gauche. Les cloches de l'église voisine, de 8 heures le matin à 10 heures le soir, me disent le temps qui passe, inexorable. Que je le veuille ou non, les meilleurs moments comme les pires sont rythmés par ces coups. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc., 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 tous les quarts d'heure. Impitoyable. Les cloches des abbesses.
Donc vous vendez des fleurs ?
Oui, dans les cabarets.
Oui.
Et puis je suis très connue.
Vous êtes très connue ?
Oui, en qualité de peintre aussi.
Oui.
Et comme avec les fleurs aussi. Oui. Vous connaissez Michou ?
Oui. 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 Vous allez chez Michou ? Moi je vous ai vu chez Serge aussi.
Ah oui.
Oui, oui.
Ah c'est Serge, oui.
Et comment vous avez commencé à vendre des fleurs ?
Ça ? Ah ben je fais ça parce que, écoutez, d'abord je fais la musique aussi et puis je me suis versée dans la peinture parce que ça m'attirait aussi. Et puis il faut bien vivre. comme on ne vend pas des toiles tous les jours, alors il faut bien, pour me permettre de travailler l'après-midi.
Ça, vous travaillez l'après-midi, puis le soir,
la peinture,
vous,
oui.
vous allez vendre un petit peu.
Voilà, c'est ça, jusqu'à 2h, 2h30 du matin.
Et on vous appelle Madame Rose et vous
On m'appelle Rose.
On vous appelle Rose. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Rose?
Parce que je vends des roses.
Ça fait 10 ans que je suis en France. Et que j'habite dans le quartier, à la rue Houdan. C'est allumé, c'est beau. On peut veiller, on a des... tout ce qu'il faut ici, dans le 18e. Je vais un peu partout, dans les boulevards. Ah si, j'adore Pigalle.
Moi, j'en ai un peu peur.
Pourquoi? Ils sont gentils. Pourtant, les gens ici de soir. C'est vrai.
Et quel est votre café préféré au bar?
Soleil Levant.
Soleil Levant.
Oui.
Ah oui. Et sur la place, vous allez au Saint-Jean ou vous allez au métro?
Ils sont trop enfermés. La journée, oui, mais le soir, non. Ils sont fermés d'ailleurs le soir, de bonne heure. À 10h, je crois, ils sont fermés. Oui. Mais Soleil Levant, c'est ouvert. Le Houdan jusqu'à 2h. Enfin, un peu partout. Je suis d'Alger. Oui, mais ça fait 10 ans que je suis là.
Et votre métier, c'est quoi?
Cuisinier.
Et vous travaillez dans le quartier?
Oui.
La nuit aussi? Vous faites la cuisine la nuit?
Oui. Parce que les gens, la nuit, ils sont sympas.
Ils sont plus détendus.
Oui. La journée, non. Les gens, ils sont toujours pressés.
Philippe Bordier, villageois.
Comme une place de village, bon, c'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est vraiment très vrai, dans le sens où on a tous les repères du village, l'église, le café, le square, les bancs.
C'est une place archétype, en fait.
Oui, en fait, ce qui est frappant dans le quartier des Abbesses, c'est qu'on a les mêmes repères que dans une petite structure, dans une petite commune, quoi, la place des Abbesses est vraiment, oui, un archétype de...
Jusqu'au nom, peut-être, même.
Oui, moi, je viens de la province, de toute manière, donc je retrouve une certaine structure très sécurisante. Et ça me convient parfaitement, quoi.
Et est-ce qu'on fait de la chasse aux jeunes, par exemple, sur la place?
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de la chasse aux jeunes?
Je sais pas, je me demande. Est-ce qu'on les poursuit?
Bah, je pense pas. Si vous êtes promené un peu sur la place, vous avez aperçu qu'il y a souvent des jeunes qui traînent et qui sont relativement libres de circuler, de stationner, hein, contrairement à certains quartiers où ils sont plutôt pour chasser. Je pense qu'il y a une certaine liberté qu'on a dans ce quartier, qui est liée à un certain mythe aussi. Le mythe de Montmartre, c'est très ancien, puis ça se perpétue à travers d'une manière un peu apparente, mais qui est quand même réelle, je crois.
C'est quoi le mythe de Montmartre?
Le mythe de Montmartre, bon, ben, c'est les artistes, ceux dont on a l'impression qu'ils ne font rien, qui sont là toute la journée à flâner, à travailler sans travailler, à regarder, à écouter, à se promener. Non, mais il faut reconnaître que dans ce quartier, il y a une concentration de professions artistiques, hein, des musiciens, des peintres, des architectes, des journalistes. Et bon, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un certain bonheur de vivre ici. Bon, il faut quand même pas se leurrer, hein. C'est une concentration, mais enfin, elle doit exister dans d'autres quartiers de Paris. Elle est plus disséminée ailleurs, mais elle existe ailleurs. Hein. Il ne faut pas croire non plus que Montmartre est un lieu privilégié, que la place des Abbesses en est le centre. Hein.
Thank you.
Elles sont des abbesses et dans l'abat-jour, et elles aiment ça. De mère en fille, les dames Abinal.
Je suis née à Montmartre. Je suis montmartroise, de naissance.
Et vous êtes d'accord avec ce que dit votre fille ?
Oh oui, entièrement. Je préférais Montmartre dans le temps que maintenant. Moi, j'ai connu vraiment, alors, le village-village.
Je peux vous demander votre âge ? C'est pas indiscret.
72.
72 ans.
Non, c'était bien mieux. C'était franchement la campagne, là, sur la butte.
Vous alliez prendre l'air
Oh, mais ma grand-mère nous emmenait avec mon frère dans le maquis. L'avenue Junot, c'était le maquis.
C'est pas d'aujourd'hui, ça
les fait rire, hein. Et puis ça les fait rire.
Ça fait rire les petites filles.
Oui, ça fait rire les petites filles. Et oui.
C'est vos petites filles, là ?
Oui, il y en a une.
Ah oui. Et alors, vous allez dans le maquis ?
Oui.
C'est incroyable de penser que l'avenue Junot était il n'y a pas tellement longtemps. C'était...
Ben non.
Il y a 65 ans quand même.
Bah,
écoutez, qu'est-ce que
c'est vrai, une génération.
Une génération. Il y avait des vaches, tout ça, je crois, non ?
Ah, c'est-à-dire que non, moi je n'ai pas connu. Ma mère a connu. Parce que où habite ma fille, c'était une ferme.
Rubur, que vous voyez.
Alors ma grand-mère.
Ah, ma grand-mère m'expliquait ça.
Vous expliquez tout ça.
C'est incroyable. Hein.
Oui.
Et à partir de quand on a commencé à construire tellement ? Vous avez un souvenir précis ?
Après la guerre en 1920-22.
Ouais, c'est là qu'il y a eu le...
Ah là, ça a commencé. Alors au square Saint-Pierre, là, sur le côté, où habite ton frère d'ailleurs.
Oui, voilà. La rue Charbonnier, tout ça a été construit à cette époque-là. Puis mais encore, il y a des petites maisons tout à fait charmantes.
Ah oui, il en est resté. Oui,
mais alors, carrément sur la place alors.
Oui, carrément là-haut, alors sur la place. Autour de la place, ça n'a pas trop perdu de son charme quand même.
Non, ça c'est resté comme ça là-haut. C'est les deux versants qui ont été construits, si vous préférez. Mmh. Notre versant à nous et le versant de l'autre côté, du côté de la rue Lamarck.
Et la place elle-même, quand est-ce qu'elle a pris sa structure, comme ça, sa forme, avec ce métro ? Oh, je sais que le métro est faux.
Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est qu'à la place du métro, il y avait un lion, comme... Le lion de Belfort. Et après, quand il y a eu le métro, ils ont enlevé ce lion. Voilà.
Il y avait la mairie aussi.
Oui. Ah, elle demande que tu t'approches. Voilà. Il y avait la mairie aussi. Oui, la mairie était où il y a le square.
Oui, ça. Et on voit encore les vestiges, d'ailleurs.
Oui, voilà. Oui,
j'ai vu des photos anciennes.
Oui, et il y avait une école.
Et pourquoi est-ce qu'ils ont démoli cette mairie ?
Alors ça... Ça, alors, on ne peut pas vous le dire.
Et est-ce que vous avez des souvenirs de... Des chansonniers de Montmartre, de toute cette époque du Bruant, tout ça, vous avez eu des...
Ah, c'est-à-dire que c'est ma mère qui a connu ça, surtout. Ma mère avait connu ça.
Oui. Elle les connaissait personnellement ?
Bah, elle les a vus d'assez près, oui.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Parce qu'elle a vécu plutôt dans un milieu artiste, ma mère.
Oui.
Alors, elle s'est trouvée mêlée à ces personnes. Alors, elle les connaissait. Voilà. Mais pas moi.
Moi encore moins, naturellement.
Elle en parlait beaucoup. Elle connaissait beaucoup de choses. Elle en parlait beaucoup, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, c'est une dame qui...
Et vous aimiez entendre parler de ça ?
Oui. Ouais. Vous savez, nous n'avions pas la télévision. Non. Et ma grand-mère, mes grands-parents, on avait une nombreuse famille, beaucoup d'oncles, de tantes, et tout ça racontait ses souvenirs. Et on passait des dimanches, au moment des fêtes, où tout le monde se réunissait, on se rappelait les souvenirs de ceci, de cela. Mon grand-père connaissait très bien le lapin agile, et alors ils en parlaient beaucoup entre eux.
Le lapin agile, papa l'a très bien connu. Il m'emmenait avec lui, et Freddy me donnait une grenadine pour me faire tenir tranquille. On m'asseyait sur le comptoir. Ça, je m'en rappelle. J'étais petite.
Vous étiez une petite blonde ou une petite brune ?
Très brune. Mmh. Alors, je me rappelle très bien de Fred. Il disait, toi, viens là, tu vas être sage. Alors, il me donnait une grenadine. Alors là, j'étais tranquille. Je regardais tout le monde. J'étais très à mon aise, d'ailleurs.
C'est toujours le même endroit où ça a beaucoup changé, le lapin agile ?
Ah, ben, le lapin agile, pas tellement, là, aux vignes.
Sur la montagne de Montmartre, à moitié chemin environ entre la chapelle Saint-Pierre au sommet et la chapelle du martyr à mi-côte, il y avait une espèce de place. Cette place était limitée comme suit. Au nord, c'est-à-dire le haut de la butte, des prés avec quelques habitations. Au sud, un grand pré en forme de langue, dont le bout venait aboutir à quelques pas de la chapelle, entourée d'une palissade en ce moment. À l'est, le mur d'enceinte de l'abbaye, avec l'entrée vers le nord-est. À l'ouest, un petit chemin qui allait jusqu'à la fontaine du But, au nord, et sur le côté de la chapelle au sud. Le long de ces chemins, des prés, des carrières, des plâtrières. Dans l'un de ces prés, en bordure de la petite place, une ferme. C'est là que nous avons affaire. La ferme était occupée par un ménage de paysans, serviteurs des religieuses. Il y avait deux grands prés, séparés par une haie. Dans l'un de ces prés, picoraient des centaines de poules. Dans l'autre, au centre duquel se trouvait une grande mare, s'ébattaient des quantités d'oies et de canards. Ce n'était là qu'une partie de la basse-cour des dames. Une haie séparait ces volailles de la place. Sur cette place, à quelques toises de la haie, un monument délabré, de forme triangulaire. Quelques pas plus loin, une croix. Voilà, la mise en scène est faite. Passons aux acteurs, maintenant. C'était un extrait du Trésor de Fausta, dans Les Pardaillans, de Michel Zévaco.
Le jour où l'on s'est rencontrés, lorsque nos yeux se sont fixés, ton regard dur comme l'acier me semblait dire quand même je t'aime. Et j'ai compris que le destin m'avait placé sur ton chemin comme une proie que l'on entraîne en lui mettant la chaîne. Alors, dès le premier baiser entre nous, j'ai senti passer l'ardent frisson qui fait germer en de longues caresses l'ivresse. Et tous nos baisers nés d'hier se faisant plus fous et pervers dans une étreinte plus certaine ont rivé notre chaîne. Mais un jour, là de trop s'aimer à comme l'on s'est bien trompé, chacun voulant se délivrer pour vivre une autre vie. Folie, si bien que sans amour au cœur, lèvres à lèvres, plein de rancœur, entre nous on se dressa la haine. Sans briser notre chaîne, je te hais comme tu me hais, mais je sens bien que désormais nous ne nous quitterons jamais, quoi qu'on dise ou qu'on fasse. Grimace, et nous irons ainsi toujours, comme deux forçats de l'amour, rivés au boulet et qui traînent l'infamie de leur chair.
Et voici déchaîné Monsieur Mettet, boucher.
Voilà. 15 francs. C'est tout? Voilà.
Merci, madame.
Merci, madame.
Vous êtes le boucher de la place des Abbesses, vous êtes mon boucher.
Oui, le boucher de Médard.
Et alors, c'est comment la place?
Bah, la place est... Disons qu'elle a un charme. C'est bien, mais disons que la place serait plus piétonnière, plus réservée, disons, aux piétons, à l'ensemble du quartier, serait mieux, disons. Mais là, on est toujours envahi par les baraquements, par les travaux d'à côté. Toujours quelque chose sur cette place et qui ne met jamais en valeur la place pour finir. Ça fait 11 ans que je suis là, installé à mon compte.
Et parce que vous aimez le quartier ou bien c'est par hasard?
Ben, disons que ça a été au début par hasard et maintenant, disons que j'aime bien le quartier. Parce que ça a été la première maison que j'ai faite quand je suis arrivé de province.
Et comment elle est la clientèle? Elle est spéciale?
Non, la clientèle n'est pas spéciale du tout, mais c'est une clientèle qu'il faut bien connaître, parce que c'est une clientèle d'amis, mais pas de... C'est pas une clientèle de Paris, comme on peut s'imaginer Paris. C'est... Montmartre est un petit village. Et vraiment, à Montmartre, on sent les gens qui sont fidèles, intimes en même temps, et c'est presque plus des clients, c'est presque des amis. Quoi.
Vous connaissez tous vos clients, pratiquement?
Ah oui.
Leur nom, vous connaissez mon nom?
Non. Je connais très peu de noms, mais je connais beaucoup les gens par de les voir du quartier, si vous voulez. Même des clients que je ne sers plus en tant que client, mais que je revois dans la rue, qui me disent bonjour et que demain ils reviennent ou après-demain. Mais il n'y a pas de rancune comme dans des quartiers, si vous voulez.
Oui, quand on passe d'une boucherie à l'autre, vous n'en voulez pas aux clients, finalement?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que de toute façon, c'est normal, parce qu'il y a un choix de... Ici, la place des Abbesses, c'est un choix alimentaire, si on veut, entre la rue Le Pic et la rue des Abbesses, et que les clients, c'est normal qu'ils se fassent un choix. En même temps, s'ils ne sont pas toujours contents, bah, ils vont voir ailleurs, c'est normal. Ils ne seront peut-être pas mieux servis, mais au moins, s'ils reviennent, c'est qu'ils ont toujours été bien servis. Mmh. C'est là le problème.
Et c'est important pour vous que vos clients soient vos amis, que vous les connaissiez
Bah, c'est toujours important dans la mesure où le client qu'on connaît bien et qui est un ami, si on veut, si vous voulez, il sera toujours mieux servi. Et le client en sera toujours plus content. Mmh. Et ça, c'est une confiance réciproque entre le client et son boucher, si vous voulez. Comme entre son boucher, comme entre le charcutier, si vous voulez. Mais c'est un contact qui doit passer entre les deux.
Par exemple, vous plaisantez avec vos clients, vous bavardez avec eux, ou bien ça va plutôt rapide?
C'est-à-dire, il faut trouver le juste milieu des choses. Si c'est un samedi ou un dimanche, on n'a pas le temps de plaisanter, de rigoler. Mais si c'est, si vous voulez... début de semaine, comme aujourd'hui, par exemple, on a le temps, c'est tout à fait différent. Vous voyez, la dame, par exemple, elle vient chercher son roast beef, mais il n'est pas prêt encore. Parce que vous voyez, c'est vous qui m'avez retardé aujourd'hui.
Ah, hein? Désolée.
Non, mais c'est pas grave, c'est pour
madame.
La radio, madame. Hein?
Oui,
la radio. Vous voyez, ça va s'arranger.
Alors, vous le faites, si vous voulez, bien sûr.
Oui, oui, je lui fais tout de suite.
Oui. Je me fais, hein. Bon, on revient dans 5 minutes.
D'accord. Une rue, un ensemble, une place, c'est l'ensemble des commerces, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a dans la rue qui anime le quartier, si vous voulez. Alors le bistrot, autant son importance que l'église, que le boucher, que le charcutier, que... C'est l'ensemble pour finir. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là?
Ça fait combien de temps que vous me voyez? Justement, on va savoir, là, si vous...
Ben nous, ça fait combien de temps que je vous vois? Ça doit faire 6-8 mois par là. Non?
Ça fait un an et demi, presque deux ans.
Un an et demi? Bah oui, ouais. Le temps passe vite.
Et vous aimez bien le quartier aussi, madame?
Ah, moi j'adore le quartier. À 25 ans que j'y habite, je ne voudrais pas changer de quartier.
Pourquoi?
Moi, je sais pas, c'est agréable, puis enfin, les gens sont sympathiques. Quoi qu'on leur dise que c'est un quartier voyou.
Voilà, c'est un quartier voyou?
C'est ce qu'on dit.
110 francs, madame. Ce qu'on dit, mais c'est pas vrai.
Moi, hein?
C'est pas vrai.
Dans tous les quartiers, moi, je m'aperçois que c'est pareil. Hein. Les amis qui habitent le 7e, ça dit ça, c'est l'arrondissement le plus élégant. C'est pareil
ici, les gens sont attaqués pareil. Hein.
Le métro,
il
mange ici.
Hein. Vous trouvez que c'est un quartier voyou?
Non, pas spécialement, mais enfin, il y a de tout, disons, si vous voulez. Et le quartier, c'est comme certainement dans beaucoup de quartiers de Paris, ça s'améliore pas, disons. Hein, parce qu'avec
vous
les...
Vous l'avez bien...
Oui, bien préparé.
Bien préparé.
Mais comme d'habitude, bien. Madame.
Allez, au revoir.
42,50.
Donc, vous... Alors, le quartier voyou, voyou ou pas voyou?
Non, je trouve pas que le quartier est voyou, si vous voulez. Évidemment, il y aurait peut-être un peu plus de protection pour les personnes âgées, pour, disons, pour limiter les abus de travestis et tout ce qu'il peut y avoir dans le secteur. Ce serait peut-être pas plus mal. Mmh. Hein, au contraire, de toute façon, on a fait des démarches dans ce but-là. Mais le quartier n'est pas plus voyou qu'un autre quartier, de toute façon. Mmh.
Vous avez des clients travestis?
Oui. Ils sont très, très gentils. Moi, je peux pas dire que les clients, qu'ils soient travestis ou qu'ils soient... fille de la rue ou fille de tout ce que vous voulez, si vous voulez, de l'instant que ce soit des clients qui soient corrects. Et... Pour moi, c'est des bons clients. Et il ne faut surtout pas le faire remarquer que, bon, mais qu'ils sont autrement qu'un autre, c'est tout. Et j'ai des clients que je sais qui sont travestis, bon, ils préfèrent qu'on leur dise bonjour mademoiselle, ou... etc. Je leur dis bonjour mademoiselle, moi, je sais pas. C'est leur bon plaisir. Hein.
C'est pas gênant de votre point de vue d'avoir une clientèle comme ça, un peu
particulière? Oh, non. Non, de toute façon, maintenant, c'est de la rigolade. Hein. De toute façon, les gens, même les clients sérieux d'un certain rang, voient des travestis, sont habitués, ils rigolent aussi bien. Comme moi, je rigole avec eux, comme moi, je rigole avec vous, pareil. C'est pas gênant. De l'instant qu'ils restent à leur place et qu'ils n'ennuient personne. Le problème, c'est surtout, qui est le plus gênant, c'est le problème de l'école avec les travestis dans la rue.
Est-ce que vous avez des enfants qui vont à l'école?
Parce que les enfants qui vont à l'école, qui voient le spectacle comme ça, c'est pas... Pas terrible, disons. Mais à part ça, bon, bah, quand il travestit, ça je... Si il travestit et il n'y avait personne qui courait après, il n'y en aurait pas. Hein? S'ils n'étaient pas payés par quelqu'un, il n'y en aurait pas. Hein? Donc c'est pas à nous qu'il faut. Hein?
Ça dérange beaucoup de gens dans le quartier, je le sais, mais enfin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je sais qu'avec la petite, il y a certaines péripatéticiennes qui me voient y passer très souvent. Il y en a qui me disent bonjour, bon, bah, je réponds bonjour et puis c'est tout. Elles sont très polies, très correctes, il n'y a pas de problème. Bon, le seul ennui qu'il y avait, c'est qu'elles étaient roudons juste à la sortie de l'école. Bon, alors ça, pour les enfants, bien sûr, ils posent un tas de questions. Il y a eu un arrêté préfectoral, je crois, en leur demandant de rentrer... aux heures où les enfants sortaient et rentraient à l'école, c'est ce qu'elles font. Bah, il n'y a pas de problème, les enfants ne les voient plus, bon, bah, c'est tout. Surtout sur les travestis, bon, ils les voient un peu déguisés, pour eux, c'est vraiment déguisement. Alors, ils se posent d'énormes questions, mais enfin, bon, bah, maintenant qu'ils rentrent, quand les enfants sortent de l'école, ils ne les voient plus, bon, bah, il n'y a pas de problème, c'est tout. Hein? Enfin, les règlements de compte, en général, c'est la nuit ou le soir, donc, cette heure-là, on les couche, on voit pas ce qui se passe dehors. C'est réputé, enfin mon bar Pigalle, c'est réputé depuis X temps pour les règlements de compte, les petits bars, les trucs comme ça, donc ça je pense pas que ça changera aujourd'hui, ce sera peut-être pire un jour, mais enfin je pense pas que ça changera. Ça a toujours été, Saint-Germain c'est Saint-Germain, Pigalle restera Pigalle et puis c'est tout, moi. Hein. C'est assez... C'est comme ça, hein. Chaque quartier a son folklore. Bon bah nous Pigalle c'est ça, enfin les abbesses c'est ça.
Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
La place, la nuit. Le café du métro, les boutiques, la poste, tout ferme. Le métro reste seul éclairé, comme une île. Place vide, sauf les loulous aux bruyantes motos qui restent tard à discuter, assis sur les bancs. Ils semblent tramer des coups extraordinaires que peut-être ils réaliseront et qui leur donnera fortune, plaisir et gloire pour toujours. Le vent se lève. Et la feuille entre mes mains remue un peu. Cette place, c'est comme une plage, et Paris au loin serait comme la mer. Ma place, la place des abbesses. Sur un banc, des gens discutent. Ils ont l'air contents. Ils ne jouent pas aux cartes, non, c'est pas du tout le genre de la place. Ils sont là, ils parlent, ils ne font rien. C'est une place d'attente. Et quand la nuit tombe, les habitants se hâtent vers leur maison tiède et regardent s'ils ne sont pas suivis de quelques malfrats. On ne sait jamais, Pigalle est si proche et la peur rôde de la nuit sous la lune. Là-bas, tout en bas, je ne les vois pas. Je sais qu'elles sont là. Des créatures de rêve stationnent dans des voitures de luxe. Vitres offertes, yeux au maquillage intense, seins qui n'en finissent pas. Vêtements courts, chair trop proche. Six femmes, d'une féminité si éclatante que tous les doutes sont permis. Et parfois, quand je sors du métro ou que je passe tard sur la place, je les entends discuter. Leur voix grave, large, ténor bien plus que soprano, voix étrange sortie de ces grands corps délirants et délicats. Autour d'elles passent des hommes. Que veulent-ils? Que savent-ils d'elles? L'une d'elles, tout l'hiver, a traîné autour de la cabine téléphonique, mystérieuse et agressive, ne craignant ni froid ni rien, dans son imperméable beige, bien serré à la taille. Cigarette au bec, comme dans les films, et elle disait « Tu viens, chérie ?» Et je la regardais. Restaurateur rue des Martyrs, en face de la boucherie du Progrès.
Je crois que les gens vivent beaucoup plus dehors dans ce quartier. On se rencontre dehors, on se rencontre pas à l'intérieur. On se rencontre dans les bars, sur les terrasses des bars, sur la place des Abbesses, dans les rues, pendant qu'on fait le marché, parce qu'on traîne au marché.
Mmh. Oui, c'est un joli marché.
Oui, c'est un très très beau marché.
Ouais.
On traîne, on regarde, on va prendre un pot pendant qu'on fait les courses avec des copains, puis... Donc on se rencontre plus facilement.
Et vous, c'est ça qui vous plaît, en tout cas vous, et les restaurateurs font toujours leurs courses dans le quartier comme ça? Vous n'allez pas à Rungis ou...
Ah, je ne sais pas si les autres restaurateurs font leurs courses dans le quartier. En tout cas, moi, je les fais dans le quartier parce que ça me permet d'avoir de la marchandise au jour le jour. Alors que si j'allais à Rungis, il faudrait que je prenne pour toute la semaine. Et en fin de semaine, ce serait moins frais.
Et est-ce qu'il y a une cuisine montmartroise ou abbessienne?
Alors ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, ça n'est pas une cuisine parisienne, donc... C'est plutôt une petite cuisine bourgeoise, mitonnée, et quelques spécialités lyonnaises. La musique du restaurant, c'est uniquement les années 30, 40. Avec des vieilles chansons que l'on ne retrouve plus, ou très peu.
Monsieur Boutet de Montvel, bouquiniste, est-ce que vous l'aimez, le quartier?
Oui, 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 puisque c'est là que j'ai fait ma boutique et que j'y habite depuis quand même plus de 15 ans maintenant.
15 ans.
Oui, oui.
Est-ce qu'il a beaucoup changé depuis 15 ans?
Bien sûr, c'est en train de, comme tout Paris, de démographiquement changer, puisque les appartements deviennent à des prix très très chers et que... de plus en plus, ce qu'on appelle le populaire est obligé de s'en aller, d'émigrer et de laisser la place aux gens qui peuvent se payer les appartements. Sinon, bien sûr, j'aime le côté touristique de Montmartre. Non, contrairement à ce qu'on critique, je trouve que c'est assez agréable que les gens viennent se balader dans Montmartre. Ça fait des gens qui sont détendus et qui viennent se promener. Ce que je n'aime pas évidemment tellement, c'est la prostitution qu'on fait autour de ce tourisme. Mais enfin, il faut que tout le monde vive et ils ont l'avantage de ne pas se prendre trop au sérieux. Je parle des peintres de la place du Tertre, des choses comme ça. Mais je trouve agréable ce côté presque permanent de vacances et de gens qui ne courent pas à des préoccupations pas trop sérieuses et qui se baladent d'une façon détendue. C'est un côté favorable que j'aime bien de Montmartre. Par contre, je suis assez déçu de voir que les gens de Montmartre s'intéressent très peu à ma boutique. Ou spécialement le musée de Montmartre qui n'a jamais mis les pieds, alors que j'ai toute une quantité de documents sur le vieux Montmartre. Mais enfin, ça, c'est normal parce que je ne me lis pas du tout avec tout cet, alors ce faux montmartisme de justement de réunion, de soulerie commune où on reprend que le côté extérieur, ils aimaient bien les canulars, les choses comme ça, mais ce n'était pas que ça. À mon avis, des gens comme Stan Lane, comme Willett, étaient infiniment plus violents et remettaient la société beaucoup plus en cause que simplement des petites blagues qui est devenu le fait de ce qu'on fait actuellement extérieurement, tout au moins dans Montmartre. Quand je fais,
oui, là, on reçoit...
Assez méchant.
On reçoit des petits journaux, L'Homme libre de Montmartre, des machins comme ça, qui signe de ça, de ce que vous dites, qui sont ridicules et qui sont très
Oui, c'est ça. Alors, on a gardé de Montmartre qu'un esprit léger, rigolard, qui prend tout à la blague, qu'on donnait en dernier lieu peut-être les chansonniers, là, qui étaient les chansonniers, le grenier de Montmartre, toutes les choses comme ça. Mais au Chat Noir, ils allaient beaucoup plus loin. Des gens comme Jules Jouy, comme Coutet, comme Bruyant parlaient de tout autre chose, à mon avis.
Préfecture de police, Direction générale des recherches, 3e brigade. Objet, au sujet de l'anarchiste Coutet Gaston. Rapport. Le commissaire de police, chef de la 3e brigade, à monsieur le directeur général des recherches. L'anarchiste Coutet Gaston, âgé de 20 ans, né à Beaugency dans le Loiret, a fait déjà l'objet de plusieurs rapports de mon service. Poète chansonnier, il fréquente les cabarets du quartier latin et de Montmartre. Actuellement, il chante presque tous les soirs au cabaret de l'Âne Rouge, 30 avenue Trudaine. Dans la journée, Il travaille chez lui, à composer ses chansons en compagnie de son ami Tavo, Antonin. Il rentre généralement vers 2h30 du matin. Côté Gaston, gagne de 10 à 12 francs par jour. Ses parents, meuniers, à Meung-sur-Loire dans le Loiret, lui envoient de l'argent presque tous les mois et il ne fait pas de dettes. Il ne reçoit personne chez lui et ne donne asile à aucun individu. Il fréquente les chansonniers de Montmartre et du Quartier Latin. Il ne reçoit de lettres que de ses parents. Rue Germain Pilon, 19 bis, il recevait, en outre du rire, divers journaux amusants et un journal d'Orléans dans lequel il y avait un jour sa biographie. La concierge ignore s'il se sert de la poste restante. Ses chansons, d'après les dires de Madame Bigot, propriétaire du café de l'Âne Rouge, et de Monsieur Depaquis, chansonnier, demeurant 16 rue de Ravignan, sont empreintes d'esprit libertaire. Ces personnes croient qu'il a été collaborateur à des journaux révolutionnaires, mais elles ne pensent pas qu'il soit dangereux. En résumé, cet individu professe des opinions libertaires et fréquente les milieux anarchistes. Il ne paraît pas être dangereux. Voici son signalement. 1m70 environ, cheveux châtains assez longs, imberbe, figure maigre, teint clair, nez un peu long, corpulence moyenne. Il est vêtu d'un veston noir et d'un pantalon de drap de fantaisie, étroit. Il porte un chapeau de feutre mou noir. Le commissaire de police, République française, liberté, égalité, fraternité, Paris, le 5 octobre 1901. Autre document. Paris, le 7 juin 1911. Gaston Coutet, pitoyable chansonnier, se montre très satisfait des poursuites dont il est l'objet. Cela lui fait une réclame énorme dans les cabarets et remplace son talent qui ne fut jamais très grand. 277, 111. Tel est le numéro inscrit sur la feuille.
Qu'avions-nous jusqu'à ce jour? De l'or, pas un sou, du sol, pas un pouce. Notre âge nous livre l'amour, blond trésor et vigne au vent d'anges douces. Mais voici qu'on veut nous voler 3 ans de bonheur éclos hier à peine. Et voici qu'on veut affubler nos tendres 20 ans d'oripeaux de haine. Les gros, les grands, si c'est à vous, écus sonnants et bonne terre. Les gros, les grands, si c'est à vous, vous les gardez pour vous. Mais nos 20 ans, ils sont à nous. Et c'est notre seul bien sur terre. Mais nos 20 ans, ils sont à nous, nous les gardons pour nous. Pourquoi des clairons, des tambours, le violon jase au fond des charmilles, les galons et les brandebourgs, ça fait mieux autour du jupon des filles. Notre cœur dans un cœur aimé reposera mieux qu'au sein de l'histoire, car nous nous flattons d'estimer une nuit d'amour plus qu'un jour de gloire. Les gros, les grands, si c'est à vous, écus sonnants et bonne terre. Les gros, les grands, si c'est à vous, vous les gardez pour vous. Mais nos 20 ans, ils sont à nous. Et c'est notre seul bien sur terre. Mais nos 20 ans, ils sont à nous, nous les gardons pour nous. Le mensonge en l'amour prend corps, mais il prête une âme au drapeau qui bouge. Alors nous préférons encore le mensonge rose au mensonge rouge. Et sur ce bourgeois impotent dont le champ fleurit, dont le coffre brille, ne demandez plus nos 20 ans, ils sont promis pour le prochain quadrille. Les gros, les grands, si c'est à vous, écus sonnant et bonne terre. Les gros, les grands, si c'est à vous, vous les gardez pour vous. Mais nos 20 ans, ils sont à nous. Et c'est notre seul bien sur terre. Mais nos 20 ans, ils sont à nous. Nous les gardons pour nous.
Est-ce qu'il y a des gens qui continuent cet esprit-là?
Bah non, je ne crois pas. Si, il y a eu ce qu'on avait appelé les artistes engagés. Ce qui est intéressant, je trouve, à cette époque-là, c'est qu'ils étaient engagés. Ils disaient des choses avec une certaine violence, mais ils n'étaient pas engagés dans des sectes idéologiques. Comme c'est le cas maintenant, on est engagé, c'est-à-dire qu'on est obligé d'obéir à une idéologie assez précise. Et si on dit le moindre mot de travers, on est mal vu et excommunié. Jamais on a été autant dans des chapelles et des écoles. Ce qui est assez surprenant à cette époque-là, c'est qu'il y avait un mélange de critiques de la société, mais qui venait aussi bien d'hommes, en fait, de droite que de gauche, mais qui se révoltait contre certaines injustices, contre un tas de choses, sans chercher à appartenir à une secte bien précise. Un homme comme Bullitt était très représentatif de ce qu'on peut appeler l'anarchisme de droite, avec pas mal de défauts, un côté très xénophobe, même antisémite et tout ça. Mais et un homme comme Stanley était nettement plus engagé politiquement à gauche. Il a participé aux journaux comme le Chambard socialiste et des choses comme ça. Mais cela n'empêchait pas de tous ces gens-là de s'entendre et surtout de s'entendre pour contester ce qui était le plus choquant dans notre société. Dans l'exemple de ce que je dis, il y a ce concours du journal où je vois mélanger au jury les noms justement de Stenlen, de Carandage, et le tout signé par mon grand-oncle Maurice de Montvel, qui lui était ouvertement de droite, extrême droite. Et tous ces gens-là se réunissaient, pouvaient s'entendre, pouvaient discuter, alors qu'actuellement, je crois que des choses comme ça seraient beaucoup moins possibles. Les scissions sont plus grandes, puis il ne faut pas dire un mot de travers. Finalement, on est beaucoup plus conformiste vis-à-vis des idéologies, des sectes. Il faut se tenir à un bord. Ceci est lié à Montmartre, dans la mesure où justement Montmartre bousculait un petit peu toutes ces notions toutes faites. Voilà.
Le marchand de journaux de la place des Abbesses.
À l'origine, il n'est pas comme ça, le métro.
Comment il était à l'origine?
Oh, il était en brique. Enfin, pas en brique, mais c'est un métro très ordinaire, en fait. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas ça.
Oui, là, il y a une chose de Guimard qui est très jolie.
C'est ça, ça n'y était pas. 10 francs, jeune fille.
Oui, on m'avait raconté que quelqu'un, il y a 5 ou 6 ans, et ça a été posé.
Oui, ça a été mis il y a 5 ou 6 ans. Il y a... non, il y a...
J'ai mis 50 francs, là.
Ah, pardon. Il y a... 7 ans, oui, 7, 8
ans. Oui. Comment c'est ça qu'ils ont décidé de faire une place pittoresque, alors
Ça, par contre, je ne le sais pas.
Vous ne savez pas.
C'est le métro le plus profond de Paris, c'est tout ce qu'on peut... Mais je pense que ça se prête bien à Montmartre, en fait. C'est ce qu'ils ont voulu faire.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est mieux, là?
Ça se prête oui, à c'est plus agréable, oui, ça se prête à Montmartre, c'est indéniable. Hein? Ceci dit, qu'est-ce qu'il y a? Et cette place, elle est un peu sale quand même, pas mal.
Oui.
Et...
Vous voulez dire qu'elle n'est pas nettoyée ou bien?
Oui, elle est enfin pas nettoyée, ce serait trop dire, mais enfin. Elle n'est pas très propre. Il y a des baraques. Dès qu'il y a des travaux, il y a des baraques qui se mettent là. Il n'y en a pas en ce moment, mais c'est.
Oui, c'est vrai, on en a eu tout l'hiver.
C'est une constante de la place. Les baraques manquent.
Quand il n'y en a pas.
Oui, 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 c'est très étonnant.
Mais elle est très jolie, cette place, vous l'aimez?
Elle est très jolie, elle est splendide même, mais disons qu'elle n'est pas mise à son niveau où elle devrait être.
Vous êtes pour les choses piétonnières, là, qui nous menacent, ou bien...
Qui nous menacent?
j'ai peur du béton, je vous dirais, dans les zones piétonnières.
Non, moi, je suis assez partisan des zones piétonnières.
Oui.
C'est plus agréable de voir des gens sur la place que de... De voir des voitures, hein, c'est indéniable. Non, c'est une bonne initiative. Hein. Bon, effectivement, ça gêne le stationnement, mais sorti de là, je veux dire que ce qu'ils ont fait en face, c'est pas mal. c'est, enfin, ils ont mis des plots pour empêcher la circulation. Ils ont mieux fait
de faire autre chose.
De faire autre chose, c'est sûr. Mais je veux dire que j'espère qu'ils amélioreront ça. Que,
ouais.
Que ça restera pas une route barrée, en fait.
Oui,
pour l'instant,
c'est ça.
Ça ouais. Pour l'instant, c'est ça. C'est gênant. Mais ils semblent bouger. Actuellement, ils semblent bouger. Il y a la maison qui se rénove. Je sais pas. Enfin, ils ont l'air de faire des nouveaux.
Au moment des élections, on m'avait dit que Montmartre était le quartier le plus extrême de Paris. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des gens très riches et des gens très pauvres.
Oui. Enfin, il y a des gens.
Mais vraiment très très riches, le maximum de l'argent. Et on voit quand même aussi beaucoup de petites mémées qui n'ont pas de sous. On voit.
Oui,
les,
non,
les
ça
clochards.
Existe encore. Ça existe pas
choses.
Mal. C'est un quartier encore très populaire. Mais oui. Il est certain que. Que les appartements se rénovent, ça se sent, ça se voit un peu partout. Et il existe encore des îlots, disons, de gens. Enfin, il existe une population pas riche, c'est certain. Mais il y a une évolution nette, malgré tout.
Nous avons beaucoup de touristes, mais monsieur vous l'aurait dit.
Oui, mais oui. Ça dépend des périodes. Pas vraiment ici, pas vraiment sur la place. Les touristes vont plutôt vers le Sacré-Cœur. Ils sont. Si, il y en a ici, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais enfin. Ils sont malgré tout orientés vers le Sacré-Cœur par. Enfin, du métro Sacré-Cœur.
Et ils prennent la rue Yvonne Le Tac oui, et craquent.
Ouais. C'est ça. Il y en a des touristes, malgré tout. Mais enfin, c'est pas. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment déterminant.
Je crois que vous avez un client là, qui
oui,
s'angoisse.
On ne voudrait pas
vous retarder. Vous avez des enveloppes.
Des enveloppes. Dans le fond, sur le côté, là.
L'avion,
avion, je n'ai pas.
Ah, je n'en ai pas.
Je n'en ai pas en ce moment.
Ok.
Oui. Vous voulez pas un enveloppe?
Non, c'est ma jambe d'avion que je veux.
Non, non, je n'en ai pas en ce moment.
Décidément.
Vous
m'excuserez,
je reste. Mais je vous en prie, ça ne me gêne pas. Vous pouvez parler, vous devriez
oui, oui.
Parler.
Ah non, moi, je préfère que ce soit vous.
Je pense pas que ce soit exclusivement réservé à moi.
Hein. Si, d'abord, vous vous exprimez avec aisance.
Enfin, il devait faire. Il y avait un projet pour changer la place des Abbesses qui n'a pas vu le jour pour l'instant.
Pas d'argent.
Il parle. Non, je sais pas. Il a été assez contesté, en fait, je crois, malgré tout. Bien qu'il n'y ait pas d'opération immobilière apparente derrière, il a été malgré tout assez contesté.
Qu'est-ce que vous pensez de l'opération du Moulin de la Galette?
J'en pense que c'est quand même une opération immobilière. Enfin, le but, c'est quand même une opération immobilière et qu'on habille ça sous des dessous culturels.
C'est quand même comique. Le seul moulin du monde en béton, nous l'avons.
Ouais.
En béton avec une garniture en bois. C'est quand même extraordinaire, un moulin en béton.
Oui, enfin, c'est une opération tout à fait fictive, finalement. C'est pas très.
Vous pensez qu'ils ont fait une erreur?
Oh oui, quand même, il fallait faire en bois, comme il était avant. Hein.
Il n'y a qu'à voir le prix du mètre carré au Moulin de la Galette. Hein, je veux dire que je ne le connais pas exactement, mais je crois que ça doit tourner autour de 12 000 francs le mètre carré.
Alors, est-ce qu'il y a des expropriations sur la place prévues?
Oui, alors il y a une expropriation, il y a le magasin d'en face, qui est en principe exproprié.
La petite lingère.
La petite lingère, oui. Et le restaurant d'à côté... devait l'être, enfin, les informations que j'avais il y a 3 ou 4 ans, le restaurant devait l'être. Alors, je ne sais pas s'il l'est maintenant, la lingerie, c'est fait, autant mais que bon. Je sache, hein, puisqu'elle est transférée à l'autre coin, elle se transfère dans un autre magasin de la place.
J'aime beaucoup Montmartre, je m'y plais, pour rien au monde je quitterai Montmartre.
Vous habitez à Montmartre depuis longtemps?
Ça fait 25 ans que j'habite Montmartre. Et je suis très contente d'y habiter. Je le quitterai pour rien au monde.
Et vous êtes d'accord avec ce qu'a dit monsieur?
Ah oui, ah oui.
Sur les changements de population,
Oui.
Et pourquoi vous aimez Montmartre?
Ben parce que c'est vivant. Comme je suis toute seule, eh bien, j'aime les gens autour de moi. Je trouve que c'est très vivant. Et en plus, j'habite à côté du Sacré-Cœur, là, du square Villette. Alors là, il y a toujours du monde, des enfants, des touristes. Enfin, c'est très, très bien. Moi, je m'y plais. Ben, y a une chose qui est vraie ici à Montmartre. C'est que vous avez toujours du monde dans les rues. Alors, si vous avez un malfaiteur qui vient d'un coin, vous avez des personnes qui viennent de l'autre coin et qui, quand même, peuvent servir de, comment dirais-je, de paravent, si vous voulez, ou de protection, qui vous défendront peut-être pas, mais leur présence fait hésiter. Que l'on vous attaque lorsque vous sortez du métro, par exemple, vous avez toujours des touristes qui vont et qui viennent. Et qui... Moi, je trouve que Montmartre est moins dangereux que certains quartiers isolés dans Paris. Oui. Quand je commence à parler, moi, je ne sais jamais quand m'arrêter. Alors, il vaut mieux qu'on le prend là.
On dit que toutes ces petites rues sont des coupes-gorges. Je ne le crois pas. Mais quand même, j'ai peur. Je ne les prends pas le soir. Par prudence. C'est vrai ou pas, tout peut s'y passer. Malgré le vernis du Japon et le lilas qui fleurit là en bas, et le lierre, épais, et les oiseaux. Tout peut s'y passer. Bagarres, crimes sanglants, peur qui rôde, règlement de compte. Ma place aux visions apocalyptiques. Le week-end, les émigrés viennent guigner et draguer les belles étrangères, touristes en quête de Sacré-Cœur. Si ça ne marche pas, ils descendent quelques mètres et se payent un quart d'heure d'oubli. Quartier mélangé, populaire et riche à la fois, mal famé aussi. L'apocalypse, ma place. Après Zadok the Priest de Handel, voici le Père Voler dans son église.
Certains l'appellent Notre-Dame des Abbesses, d'autres Notre-Dame des Briques, d'autres Saint-Jean des Briques, mais enfin le
pourquoi
terme exact. Parce que l'église est faite en briques. En 1890 à peu près, le projet a été conçu et on a construit cette chapelle de secours, morceau par morceau, d'abord une crypte et puis ensuite l'église par-dessus, avec une technique révolutionnaire. De Baudot, architecte, élève de Viollet-le-Duc, voulait réaliser quelque chose qui ne soit pas cher, qui soit vaste. Il a donc pour la première fois... fait un projet d'église en briques armées.
Moi, je trouve très beau.
L'extérieur, oui. Les formes, les volumes,
l'intérieur est un
oui.
peu triste.
L'intérieur est triste parce qu'on a maintenu la peinture d'origine, qui d'ailleurs a dû virer au cours des temps, et les beaux-arts ont refusé qu'on en change la teinte. C'est une teinte verdâtre, couleur crasse, très désagréable, finalement très triste et très sombre. Bon.
Le carillon, là, en ce moment, il est en rénovation.
Il est en réparation,
oui. Il est en réparation.
J'aurais aimé que cette église soit blanchie complètement, qu'elle soit joyeuse, ou alors que l'on rende la brique apparente comme à l'extérieur. Ce serait peut-être dommage, mais on pourrait garder les fresques et blanchir tout le reste.
C'est un habitant de Montmartre depuis combien de
temps ? Depuis 2 ans. Ah. Je suis un méridional de la Porte d'Orléans, du 15e, du 7e arrondissement. Bon.
Alors là, on vous a déporté.
On m'a déporté, oui, j'ai franchi pas le Rubicon, mais enfin, la Seine. Et c'est vraiment une sorte d'exil au départ, parce que les deux rives, et surtout Montmartre, ont des mentalités très différentes. Bon, alors, ce quartier-là, évidemment, c'est autre chose que l'église elle-même. Enfin, c'est un quartier très contrasté, puisque vous avez d'une part une très vieille population, originaire du coin. Les Montmartrois sont fiers de l'être. Ils ont presque tous plus de 90 ans. Enfin, on y vit très vieux. On est au-dessus des brumes de la plaine. Ces gens-là sont très attachés à leur quartier, sont pleins de traditions, sont pittoresques, sont très chaleureux. Puis à côté de ça, il y a Pigalle. C'est la pourriture, c'est la perversion sexuelle et le banditisme.
Et vous avez des résonances des deux aspects ?
Non, je m'occupe exclusivement, non pas volontairement, mais de par les événements, de par ce qui m'arrive et ce que j'ai à faire des gens du quartier. J'ai parfois, et même trop souvent, à mon gré, affaire à la pègre. C'est assez souvent par police interposée, enfin.
Vous avez affaire à eux ?
Parce qu'ils viennent dans l'église, ils viennent nous demander de l'argent. C'est le monde des clochards et le monde des truands, des sorties de prison ou des gens en cavale. Ou des inactifs qui vivent de je ne sais quelle rapine et de quémandage à droite et à gauche. Si vous voulez, la perversion sexuelle a monté par les petites rues perpendiculaires au boulevard et s'arrête à peu près ici. Mais enfin, vous savez comme moi que la nuit, la place des abbesses est la proie des travestis. Hein, qui ne cohabitent pas d'ailleurs avec les prostituées, eux. Ça ne fait pas bon ménage. Ça ne peut pas faire bon ménage. Non, c'est un monde assez inquiétant quand même et contre lequel il semble qu'il n'y ait pas grand-chose de fait.
Hein. Quel est votre rapport avec eux alors ? Vous leur donnez de l'argent, vous les aidez un peu ?
Je ne leur donne pas d'argent du tout. Oui. Aucune envie de leur donner de l'argent. J'ai des gens dignes d'intérêt pour lesquels je n'ai pas assez d'argent. Je ne vais pas aller le gâcher. J'ai ceux qui vont aller le boire immédiatement ou continuer de vivre au crochet des autres. Ce serait un très mauvais service à leur rendre. Je serais prêt à leur rendre tous les services du monde s'ils n'étaient pas d'abord des profiteurs. Quoi. Non, ce sont des professionnels.
Vous n'avez pas rencontré des gens très émouvants, enfin, dans ces...
Ah si, mais pas dans cette catégorie-là.
Oui.
Très rarement. Je peux dire que 99% sont des escrocs. Au début, mon sacerdoce me faisait avoir, mais j'ai relativement vite compris à mes dépens, quoi. Hein? Non, je pourrais écrire un livre de toutes les histoires que j'ai eues, de toutes les menaces, de toutes les intimidations pour obtenir quelque chose. Des larmes d'abord et de la colère violente ensuite.
On vous a menacé physiquement ?
On m'a pas tapé dessus, non, parce que je me serais défendu. Hein. Mais il faut rouler des mécaniques. Je crois en avoir découragé pas mal. Et maintenant, c'est on a un peu la paix. Quoiqu'avec le printemps, ils ressortent un peu comme des champignons. Quoi. Ils sont de passage. Ils essayent le clergé, ils viennent dans le coin. Non, j'ai déjà eu un revolver sous le nez pendant 20 minutes dans mon bureau, des choses comme ça, c'est pas agréable. Hein? Ou alors des menaces, des injures, ça je les compte pas, les injures. Mais les petites rues sont des coupes-gorges, encore que depuis un an ça s'arrange. Mais enfin, j'ai déjà ramassé dans la petite rue qui est là un gars à moitié ouvert comme ça, qui s'était fait casser la figure. Ce sont des traquenards, quoi. Des hurlements, la nuit, au secours, toutes sortes de choses. Quoi.
Vous habitez là ?
Oui, j'habite là, bien sûr, à côté. Oui. On a été cambriolés 7 fois en 6 mois, sous l'église. Ça veut dire qu'elle par effraction, ça veut dire quelque chose un peu sur le climat du quartier. Maintenant, ça va, mais on a 2 employés, parce qu'il y a tout le temps des gens qui viennent rôder dans l'église. Il faut surveiller en permanence.
Oui, pour voler des petites choses.
Oui, alors il n'y a plus grand-chose à voler, si ce n'est les cierges. Pigalle est non seulement un lieu de rassemblement des pervertis ou des délinquants, mais c'est un lieu de fabrication industrielle de délinquance. Des jeunes simplement paumés en fugue viennent là, puis se font accrocher et se transforment en professionnels, soit de l'homosexualité ou de toute prostitution. Puis après, bien, ils deviennent autre chose. Hein. On devient truand, si vous voulez. J'ai noté ici le lien étroit entre la perversion sexuelle et le banditisme. Ça va ensemble. C'est inséparable. Partout, vous avez une concentration de sex shops, de boîtes de strip, de spectacles porno, de cinéma porno, de ventes d'articles porno. Vous avez toujours tout un monde marginal et dangereux. Mm. On peut dire ça aux députés, et ils laissent tomber les bras en disant on n'y peut rien.
Oui.
Ça n'a rien de sûr. Qu'on n'y puisse rien, seulement il faudrait faire preuve d'un peu d'énergie et peut-être passer pour fasciste un peu, bah, tant pis. Mais quand on voit que c'est un pourrissoir gigantesque, c'est quand même dommage.
Lézard. On prend des manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime bien roupiller. Je peux pas travailler. Ça m'emmerde. J'en foutrais jamais une secousse. Même pas dans la rousse, ni dans rien. Pendant que le soir où je fais ma frappe, ma sœur fait la retape. Et c'est bien. Elle a plus de daron, plus de daronne. Elle a plus personne, elle a que moi. Au lieu de soutenir ses pères et mères, elle soutient son frère. Et puis quoi? Son maquet, c'est mon camarade. Il veut bien que je fade avec eux. Aussi je l'aime. Mon beau-frère Ernest, il a l'adresse pour nous deux. Et je m'occupe jamais du ménage, et je suis libre. Et je nage au dehors, et je vais sous les sapins, au but. Là, j'allonge mes flûtes, et je m'endors. On prend des manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime bien roupiller. Je peux pas travailler. Ça m'emmerde.
Un document d'archives, c'était Patachou, 10 ans, Bruant. Ça vous fait plaisir qu'on vous appelle la petite lingère?
Ah oui, j'étais acceptée tout de suite, il y a déjà 12 ans. Hein. J'étais la petite lingère, puis je m'étais bien spécialisée. En plus, cette lingerie, elle existe depuis 50 ans. Alors j'ai continué, je fais encore des corsets à la sarge pour les petites mémées de Montmartre, parce que je vois pas où elles iraient. Elles peuvent plus maintenant courir au diable et... C'est pas tellement rentable, mais je fais toujours leur petit corset à la sage. C'est resté, la coutume est restée.
Qu'est-ce que c'est, des petits corsets?
Des corsets, c'est des ceintures en coutil qu'on faisait dans le temps avec des lassages.
Vous m'en montrez un?
Il y a des personnes âgées qui mettent encore ce genre d'articles-là. Hein. Alors, bon, évidemment, c'est pas une grosse vente, mais je vais pas leur supprimer parce que... Je sais pas, il me semble qu'elles seraient désolées si elles venaient, qu'elles n'aient plus leurs petites choses qu'elles ont l'habitude de prendre. Hein. Alors on continue les corsets. Des petites choses comme ça qu'on continue par
quoi d'autre?
Faire plaisir. Pour des jartelles, des culottes en coton à jambes, des choses comme ça, des petites choses pour les petites mémés. Il y a beaucoup de personnes âgées. Elles veulent pas quitter Montmartre, elles crèveraient d'ennui.
C'est pour le tombola.
Qu'est-ce qu'on gagne alors?
On gagne.
Qu'est-ce qu'on gagne? C'est intéressant, il y a des lots intéressants?
On gagne une chaîne IFI, une télé noir et blanc, une bicyclette, une radio cassette, etc.
Bien. Ah bon, et ça, combien ça coûte?
3 francs de billets.
Oh bah oui, alors t'en prends alors.
Faut écrire le nom et l'adresse là derrière.
Oui. Qu'est-ce que tu dirais de la place Isabelle si on te demandait d'en parler?
Je sais pas.
C'est joli.
Il y a plein de clochards.
Il y a plein de clochards?
Plein de clodos.
C'est désagréable?
Le nom et l'adresse. Ça sent mauvais.
Ça sent mauvais?
Mais oui, les clochards.
Ça sent quoi?
Ça sent le vin. Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Tendron et ses fantômes.
J'ai une de mes voisines qui était un ancien modèle de Toulouse-Lautrec aussi, qui fait la vie à 84-85 ans, qui fait la vie jusqu'à 2h du matin. Enfin, c'est fou. Il y a une petite dame qui habite au bois de chez moi, qui habite le quartier depuis 80 ans. C'est vraiment un quartier encore. Mais j'espère...
Enfin, en fait, tu t'occupes de tes voisines.
Je m'occupe de mes voisines, je m'occupe de mes voisins. Enfin oui, parce que je vis dans le quartier, parce que bon, j'y suis dans la journée aussi, il y a ça aussi. Il y a aussi le quartier la nuit qui est très différent. C'est totalement autre chose. Le soir, il y a les travestis de la place des Abbesses. Bon, on se dit bonjour, on discute un petit bout et puis hop. Bon, ça fait partie de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un village avec tout ce que peut avoir une grande ville. C'est un peu... une société en réduit, mais avec tout ce que ça comporte. Et puis, il y a les loulous de la place des Abbesses, avec leurs petites motos, mais ils sont pas méchants. Ils sont bons, ce sont les poulbeaux, ce sont les nouveaux poulbeaux, si on veut.
Tu les connais, les loulous?
Je les connais plus ou moins. Je sais où ils habitent, mais personnellement, non. Bon, je sais qui ils sont, on les connaît, comme ça, dans le quartier, parce que ça fait des années qu'ils sont là. Bon, le 14 juillet, ils lancent des pétards dans la bouche de métro, ça fait peur aux gens, mais c'est bon. c'est marrant.
C'est notre chef. Vas-y, viens là, on va parler.
C'est notre chef.
Non.
Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à l'école?
Moi, je vais pas.
Tu vas à l'école?
Non, je vais plus. Il y a un an déjà.
C'est bon.
Non, je travaille.
Oui, tu travailles. C'est vous les fanatiques de la moto?
Ouais, on aime.
Je vois, il y a un gros casque.
Il n'y a pas la moto.
Moi, j'en ai pas encore de bécane.
C'est quoi le genre de bécane que...
Moi, un YZ80, je veux.
Un YZ80?
Ouais, une bécane de cross.
Et alors, vous crossez sur la place, carrément?
Ouais.
Vous y arrivez, les gens se plaignent pas trop?
Non.
Bon, ils appellent les flics.
Ils appellent les flics et puis les flics, ils viennent et c'est tout. Hein. Ils emmènent au commissariat, vérification de papier.
Vérification.
Une claque dans la tête.
Ah bon? Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 15 ans.
Et vous allez loin avec votre bécane ou bien vous restez par là?
Ah non, on se balade.
On
va en week-end. On part à la mer, là, on va aller à la Côte d'Azur. Pour les grandes vacances.
Aussi. J'en ai trois.
Ouais.
Et moi, j'en ai qu'une.
Toutes différentes?
Ouais.
Toutes aussi belles?
Ouais.
On est habitué ici, on a habitué ici.
On a toujours été
on
là.
On a habitué.
On a habité ici depuis tout petit, alors. Reste-là.
Vous faites rien de... Vous faites pas d'agression, vous faites pas de casse?
Jamais, on est honnête.
Voilà, on reste là du matin au soir.
Pourquoi vous restez là du matin au soir?
Parce qu'on a rien d'autre à faire.
Toi, t'as rien d'autre à faire?
Ouais, parce que j'ai pas de bécane, mais quand je vais en avoir une, je vais me balader.
Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard?
Moi, je sais pas, rien.
Je veux pas faire le service militaire, moi, ça va pas.
Ah,
tiens, la micro XZ.
Il est énervant. Qu'est-ce que vous faites avec ça?
Du cross, on monte les escaliers du Sacré-Cœur.
On écrase des vieilles.
Non.
Oh. Ouais,
vous montez les escaliers avec ça?
Ah, ouais.
Vous y arrivez?
J'ai essayé une fois.
Et alors?
J'ai pas pu redescendre.
Tiens, tu passes une cigarette, Santiago, s'il te plaît.
Qu'est-ce que vous faites la nuit?
La nuit, on travaille.
Je sais pas ce que j'ai. Je suis un coup dans les couilles.
On travaille au fac comme zéro, on travaille.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que c'est la Prince Monseigneur.
Là?
La Prince Monseigneur.
Je blé trop.
Voilà, on travaille.
Je sais pas ce que j'ai, je blé trop.
C'est le meilleur outil de travail.
On les voit faire le tour du pâté de maison, revenir. Alors bon, quand on écoute de la musique, c'est un peu gênant. Mais enfin bon, ils sont là, c'est pas grave.
Ma place, la place des Abbesses. Pourtant, si je l'habite depuis si longtemps, ici et là, depuis presque 7 ans, c'est que je l'aime, avec ses douceurs d'arbres, de cloches, de villages, et ses brutalités de métropole aux fulgurances troubles. Mélange, la vie, ma place des Abbesses. C'était une émission de Nicole Lise Bernheim, réalisée avec l'aide d'Odile de Pontual. Nous avons entendu un extrait des Pardaillans de Michel Zévaco, un extrait d'un nocturne de Chopin, de Keith Jarrett, concert à Köln, Mouloudji, la complainte de la butte, Gaston Couté, chanté par Morelli, Aristide Bruant, le lézard, dit par Patachou, un extrait de Handel, Zadok the Priest, le temps des cerises au limonaire et divers carillons. Bonsoir, Nuit Magnétique.
Cette émission a été diffusée la première fois le 23 mai 1980 sur France Culture.